Tout en mangeant, Gutchou raconta la tempête qu'il avait essuyée en s'y donnant un rôle avantageux. Il y avait là un homme arrivé de la veille qui s'appelait Boccaccio ou Boccas et qui était voyageur pour le compte de la compagnie Bardi. Il venait lui aussi de Paris et avait assisté avant son départ au supplice de Jacques de Molay. Il avait de ses oreilles entendu la malédiction et il se servait pour décrire cette tragédie d'une ironie précise et macabre qui enchanta la tablée italienne. C'était un personnage d'une trentaine d'années au visage intelligent et vif, avec des lèvres minces et un regard qui semblait s'amuser de tout. Comme il se rendait également à Londres, Guccio et lui décidèrent de faire chemin ensemble. Ils partirent au milieu du jour. Se souvenant des conseils de son oncle, Guccio fit parler son compagnon qui d'ailleurs ne demandait que cela. Le signor Boccas semblait avoir beaucoup vu. Il était allé partout, en Sicile, en Vénétie, en Espagne, en Flandre, en Allemagne, jusqu'en Orient. Et s'était tiré avec habileté de bien des aventures. Il connaissait les mœurs de tous ces pays, avait son opinion personnelle sur la valeur comparée des religions, méprisait assez les moines et détestait l'Inquisition. Il paraissait aussi s'intéresser aux femmes. Il laissait entendre qu'il en avait pratiqué beaucoup et connaissait sur une foule d'entre elles, illustres ou obscures, de curieuses anecdotes. Il faisait peu de cas de leurs vertus et son langage s'épissait à leurs propos d'images qui rendaient Guccio songeur. Un esprit libre, ce signor Boccas, et tout à fait au-dessus du commun.
J'aurais aimé écrire tout cela si j'avais eu le temps, dit-il à Guccio. Toute cette moisson d'histoires et d'idées que j'ai récoltées au long de mes voyages.
Que ne le faites-vous, signor ? Répondit Guccio.
L'autre soupira comme s'il avouait quelques rêves inexaucés.
Trop tard, on ne devient pas clair à mon âge, dit-il. Quand on a pour métier de gagner de l'or, après 30 ans, on ne peut plus rien faire d'autre. Et puis, si j'écrivais tout ce que je sais, je risquerais d'être brûlé.
Cette marche au botte-à-botte avec un compagnon plein d'intérêt, à travers une belle campagne verte, enchanta Guccio. Il aspirait avec plaisir à l'air printanier. Les fers des chevaux chantaient à ses oreilles une chanson heureuse, et il prenait aussi bonne opinion de lui-même que s'il avait partagé toutes les aventures de son voisin. Au soir, ils s'arrêtèrent dans une auberge. Les haltes du voyage disposent aux confidences. Tout en buvant devant le feu des pichets de Godale, forte bière épicée au genièvre, au piment et au clou de girofle, le signor Boccas raconta à Guccio qu'il avait une maîtresse française dont lui était né l'an passé un garçon baptisé Giovanni.
On dit que les enfants nés hors mariage sont plus vifs et plus vigoureux que les autres, remarqua sentencieusement Guccio, qui avait quelques bonnes banalités à sa disposition pour nourrir la conversation.
Sans doute Dieu leur fait-il des dons d'esprit et de corps pour compenser ce qui leur ôte d'héritage et de respect, répondit le signor Boccas.
Celui-là, en tout cas, aura un père qui pourra lui apprendre beaucoup.
À moins qu'il n'en veuille à son père de l'avoir mis au jour dans de si mauvaises conditions, dit le voyageur des Bardis.
Ils dormirent dans la même chambre. Au petit matin, ils reprirent la route. Des lambeaux de brume collaient encore à la terre. Le signor Boccas se taisait. Il n'était pas un homme de l'aube. Le temps était frais et le ciel s'éclaircit bientôt. Guccio découvrait une contrée dont la grâce le ravissait. Les arbres étaient encore nus, mais l'air sentait la sève, et la terre était déjà verte d'une herbe fraîche et tendre. D'innombrables haies découpaient les champs et les collines. Le paysage vallonné ourlé de forêts, l'éclat vert et bleu de la Tamise aperçu du haut d'une côte, une meute filant à travers prés, suivie par des cavaliers, tout séduisit Guccio.